Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les forces turques progressent dans le nord de la Syrie. Ankara évoque un premier mort ce matin au sein de son armée. Une quarantaine de morts côté kurde. Nous irons à la frontière turco-syrienne dans ce journal pour connaître notamment le sentiment des Turcs qui y habitent. Le gouvernement veut lancer un comité de transparence à Rouen deux semaines après l'incendie d'une usine Seveso. Transparence et confiance, car elle s'est envolée avec le nuage de fumée il y a deux semaines. Vous entendrez à ce propos un agriculteur. Nous nous pencherons aussi sur le probable départ de Thierry Bolloré à la tête du groupe Renault. Cela intervient presque un an après le début du scandale Carlos Ghosn. Et puis des chercheurs se mêlent au mouvement Extinction Rébellion pour la préservation du climat. L'un d'eux nous expliquera sa démarche en fin d'édition. La candidature de Sylvie Goulard, par ailleurs, a été rejetée hier par le Parlement européen. Un échec pour Emmanuel Macron, un échec prévisible. C'est ce que nous dira Frédéric Saïs dans son billet politique. Ce sera dans un gros quart d'heure. Mais d'abord, penchons-nous sur une mission qui, de l'avis des associations et des élus, fonctionne très bien. Cela fait 17 ans que ça dure. Une mission interministérielle pour lutter contre les sectes en France. Et pourtant, l'exécutif pourrait changer son fonctionnement. La Miviludes, c'est son nom, est aujourd'hui rattachée à Matignon pour que tout le gouvernement travaille ensemble, tous les ministères, ensemble contre les dérives sectaires. Au 1er janvier prochain, ce pourrait n'être que le ministère de l'Intérieur. Il ne faut rien changer. Voilà ce que dit Charline Delporte. Elle préside à Lille le CAFES, le centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire. Elle raconte ce matin son quotidien auprès de cette mission interministérielle.
Quand j'ai besoin de la Miviludes deux, trois fois par jour, c'est par exemple une famille qui vient le matin et qui raconte un récit et qui vient de me dire, moi, ma fille, qui a 19 ans, est dans ce groupe et depuis plus d'un an, elle a quitté la maison. Et je peux vous dire que je ne sais pas où elle est, comment je peux faire, aidez-moi. Vous savez, elle est violée tous les jours, hein. Elle est esclave, heureuse de l'être. Et tous les jours, on est en train de l'utiliser à des fins, très dangereuse et criminelle. Et donc elle dit, mais comment on peut faire? Ben, j'ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, vite on va appeler la mission. La mission est là, et elle, c'est son boulot, c'est de coordonner avec le ministère de la Santé, ou avec d'autres ministères s'il s'agit d'autre chose. Mais vous voyez les faits dommageables, c'est bien des faits de viol, c'est bien des faits de manipulation mentale, c'est bien des faits quelquefois de suicide, où on doit à chaque fois appeler cette Miviludes, parce qu'elle, elle aura tout de suite, je dirais, eh bien, la possibilité de nous dire, oui, on connaît, attention, il s'agit de ça. Et là, ils font leur boulot et ils coordonnent tout de suite avec, bien sûr, l'intérieur, avec la gendarmerie, mais avec l'éducation nationale, si toutefois le leader est dans cette école, eh bien, tout de suite, nous, notre mission, c'est de leur dire tout de suite. Ça peut arriver deux, trois fois par jour. Je crois qu'il faut très, très vite reprendre cette mission et à Matignon, pas ailleurs.
Des propos recueillis pour France Culture ce matin par Maïwenn Bordron. Pour réduire le champ d'action de cette mission, l'exécutif avance déjà un argument économique. Elle coûte à l'État 500 000 euros par an. Les associations estiment que 500 000 personnes sont victimes d'une emprise sectaire en France. Comme promis en début de ce journal, nous nous rendons ce matin à 50 km d'une ligne de front à la frontière turco-syrienne dans la ville de Sanlurfa. C'est non loin de là qu'Ankara a envoyé son armée il y a presque deux jours maintenant pour combattre les Kurdes syriens sur le territoire qu'ils occupent depuis 8 ans. Vous y êtes, Mathieu Mondoloni, bonjour.
Bonjour Clara.
Mathieu, les troupes turques continuent de s'y déployer.
Oui, on a vu passer hier de nombreux véhicules blindés de l'armée turque. Ils prenaient la direction du sud et plus précisément de la petite ville d'Akçakale. C'est toujours côté turc, mais collé à la frontière. C'est un des points d'affrontement depuis deux jours, depuis le début de cette opération baptisée « Source de paix » par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aux frappes aériennes ici et aux incursions turques répondent des tirs de mortiers des combattants kurdes. 6 morts parmi les civils de ce côté de la frontière. 10 côté syrien selon un dernier bilan. 29 combattants kurdes et un premier militaire turc tué, ont annoncé les autorités turques hier. Et puis il y a aussi 60 000 déplacés déjà de l'autre côté de cette frontière, des habitants qui fuient les combats et les bombardements qui se déroulent un peu partout dans cette région.
Et une question ce matin, Mathieu, à vous qui êtes à la frontière entre la Turquie et la Syrie, comment réagit la population turque sur place ?
Alors les gens avec qui nous avons parlé depuis notre arrivée soutiennent évidemment l'opération initiée par la Turquie. Il fallait protéger la frontière. Il faut, disent-ils, créer ce corridor de sécurité de 120 km de long sur 30 km de profondeur pour permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays. Des réactions d'autant plus surprenantes qu'elles viennent parfois de la communauté kurde installée ici en Turquie. Ce n'est pas un problème communautaire, m'assurait l'un d'eux hier. Officiellement, on fait corps donc ici avec le président Erdogan dans ce qui est aussi, et il faut le rappeler, une grande bataille de la communication.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mondoloni en direct de la frontière turco-syrienne ce matin. Vous étiez accompagné par Marc Garvenès pour les moyens techniques. À l'instant, le ministère de la Défense turc évoque, je vous le disais, un premier soldat tué dans les rangs de son armée. Il y en aurait des dizaines côté kurde, Mathieu l'évoquait. Et j'ajoute que pendant que certains fuient leur maison, que d'autres meurent en plein tir d'artillerie, les Européens demandent l'arrêt de l'offensive turque. Ils l'ont dit hier à l'ONU. L'Américain Donald Trump, lui, se voit déjà médiateur. Il propose son aide pour revenir au calme. C'est en revanche une fin de non-recevoir qu'avait lancé Donald Trump aux talibans afghans le mois dernier. Plus de médiation possible en Afghanistan sur ce qui est aussi un terrain de guerre. Les attentats y sont quasiment quotidiens et l'on attend toujours sur place les résultats de la présidentielle qui s'y était déroulée fin septembre. À l'occasion du 26e prix Bayeux des correspondants de guerre ce week-end, nous sommes allés en Afghanistan, 5 ans après le retrait de l'OTAN. Valérie Crova y a rencontré une population usée qui aspire à la paix, comme Shefa, qui a 20 ans, rencontré par Valérie à Kaboul.
Chaque jour, quand on marche à Kaboul, on voit quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père, ou ses pieds, sa main ou ses yeux. Juste en regardant les gens qui passent, on voit leur visage plein de tristesse. Mais ils ont le sourire aux lèvres, ils font semblant d'aller bien. Et ces attentats, ces choses-là sont devenues si normales que personne n'en parle. C'est comme si un attentat se produit et 2 minutes plus tard, les gens sourient et parlent comme si rien ne s'était passé. Et même c'est devenu quelque chose de tellement normal dans cette société, cela ne choque même plus personne. Et ça me fait mal de voir ce que nous sommes devenus.
C'était un extrait du grand reportage de la rédaction que vous pourrez écouter à partir de 17h ce soir, réalisé par Valérie Crova grâce à Annie Bro. Il s'intitule « L'Afghanistan, la paix à quel prix ?». Ce reportage sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer en direct de Bayeux ce soir, avant donc le 26e prix des correspondants de guerre. Il y a quelques minutes, une explosion a été entendue à bord d'un pétrolier iranien. C'est l'agence d'information iranienne LISNA qui en fait part. Explosion qui entraîne déjà une marée noire près du port saoudien de Jeddah. Voilà ce que dit l'agence iranienne. Elle évoque d'importants dégâts et déjà une piste terroriste, sans plus de précision pour l'instant. 3 ministres seront à Rouen aujourd'hui, 2 semaines après l'incendie d'une usine classée Seveso. Ils ont l'ambition d'instaurer un comité pour la transparence et le dialogue. Il y aura Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, Agnès Buzyn pour la Santé, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Car les agriculteurs ont besoin d'être rassurés, effectivement. C'est ce que confirme Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne.
Il y a toute la perte de confiance localement du consommateur, des citoyens par rapport à tout ça. Et c'est là où il va falloir retravailler, à expliquer, à avancer sur le fait que oui, il y a eu un passage, oui, il y a eu des pollutions, mais qui n'affectent pas au niveau sanitaire, on l'espère en tout cas, la qualité de l'alimentation. Ça va être un travail long, certainement, parce que ça va pas être simple à retrouver cette confiance-là. On a des producteurs, des paysans qui nous appellent en disant « Voilà, moi je suis pas dans la zone, mais on me collecte plus. Je suis pas dans la zone, mais mon magasin ne veut pas prendre mes productions. Je suis pas dans la zone, mais je vais sur un marché, les gens veulent pas m'acheter ma production. » Tout ça, voilà, il faut y faire attention. Le principe de précaution, il est important. On est encore dedans. Il faut aller jusqu'au bout sur ce principe de précaution-là. On ne le remet pas du tout en cause, bien entendu. Mais par contre, voilà, le jour où on a des certitudes scientifiques sur les levées qui doivent être faites, il faut qu'on arrive à retrouver cette confiance-là.
Car effectivement, pour le moment,
comment les agriculteurs ne peuvent toujours pas vendre leurs produits, interdiction préfectorale. L'entreprise Lubrizol a dit hier accepter de les indemniser après l'incendie de son usine. Près d'un an après le début du scandale Carlos Ghosn, la direction de Renault devrait connaître un changement ce matin. Le conseil d'administration se réunit et pourrait limoger Thierry Bolloré, numéro 2 du groupe. La direction parle de mauvais résultats. Thierry Bolloré, lui, s'exprime ce matin dans les colonnes des Échos. Il évoque une éviction brutale, inattendue. Il était proche de Carlos Ghosn et c'est peut-être cela qui pèse à Kim Kasmi.
Thierry Bolloré paye sa proximité avec son ancien mentor, Carlos Ghosn. Ces derniers mois, ses relations avec Jean-Dominique Sénard, le nouveau patron du groupe Renault-Nissan, se sont littéralement dégradées. Ce dernier lui faisant de moins en moins confiance et n'hésitant pas à garder pour lui certaines informations stratégiques. Il est également reproché à Thierry Bolloré son management parfois brutal, mais aussi la fuite de certains grands cadres, très importants. En effet, 5 d'entre eux ont rejoint cette année le concurrent PSA. Un véritable affront quand on sait que Carlos Tabarès, patron de Peugeot Citroën, est un ancien transfuge de la marque aux losanges. Il est aussi reproché à Thierry Bolloré le fait d'avoir tendu les relations avec Nissan en n'acceptant pas de tourner la page en novembre lorsque l'affaire a éclaté. Quant à l'État français qui détient 15% du capital de Renault, il se refuse pour l'instant à tout commentaire, même si hors micro, il ne cache pas sa volonté de voir partir Thierry Bolloré. Clairement, au vu des grandes manœuvres qui ont commencé au début de la semaine, avec le limogeage d'Hiroto Sekawa, l'ancien directeur général de Nissan à l'origine des révélations du scandale Carlos Ghosn, il y a désormais la volonté, pour l'Alliance, de tourner définitivement la page. Pour autant, les crispations entre la France et le Japon ne sont pas encore réglées, car si les têtes changent, les problèmes d'équilibre subsistent encore chez Nissan, qui ne supporte pas que Renault détienne encore 43% de son capital.
Elle avait été choisie par Emmanuel Macron, mais elle voit sa candidature rejetée par le Parlement européen. Sylvie Goulard, touchée par des enquêtes sur des emplois fictifs, ne sera finalement pas commissaire au marché intérieur. Un désaveu pour le président français Emmanuel Macron. Analyse de Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal. Mais avant cela, à 8h11, vous écoutez toujours France Culture. Voici cette mise en garde. Attention à l'emploi des seniors en France, à l'aube d'une réforme des retraites. Les médias, les spécialistes s'en font écho depuis l'annonce du projet de l'exécutif. La Cour des comptes confirme maintenant cette inquiétude. Elle dresse un constat plutôt noir sur les seniors exclus du marché du travail, Anne-Laure Jumet.
Après 52 ans, le décrochage est net. Un chômeur a beaucoup plus de mal à trouver un travail qu'un demandeur d'emploi plus jeune. Les entreprises ne jouent pas le jeu, elles ont des réticences à employer des salariés âgés. Et le dernier recul en date de l'âge de départ à la retraite, de 60 à 62 ans, n'a pas vraiment changé leur façon de voir, souligne la Cour des comptes. D'ailleurs, le taux d'emploi des 60 ans et plus reste un gros problème. Les 60-61 ans se retrouvant de plus en plus parmi les bénéficiaires de minima sociaux. La Cour des comptes note aussi l'absence de politique incitative pour l'emploi des seniors. L'administration se contente de faire des fiches de bonnes pratiques, tacle les sages de la rue Cambon. Carton rouge aussi en direction de Pôle emploi, puisque l'accès à la formation professionnelle des 55 ans et plus reste très inférieur à la moyenne des chômeurs. Conclusion de la Cour des comptes, à l'adresse du gouvernement, il faudrait mesurer l'impact de la future réforme des retraites sur notamment les conséquences en termes de versement d'allocations chômage et de minima sociaux. Il faudrait aussi prévoir des dispositifs incitatifs à destination des employeurs, en expérimentant par exemple une aide pour l'embauche d'un CDD senior. Pour l'instant, le gouvernement n'en est lui qu'à un stade très préliminaire. Une mission vient juste d'être lancée sur l'emploi des seniors.
Arrêtons-nous à présent au procès Karachi avec son volet financier et le possible financement illégal de la campagne d'Edouard Balladur en 1995 via le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Le procès a lieu en ce moment et le sulfureux homme d'affaires libanais Ziad Takieddine était entendu hier. Il est considéré comme l'un des rouages essentiels du réseau K, le réseau d'intermédiaires Florence Turm.
Ziad Takieddine a été entendu 25 fois au cours de l'instruction. L'homme d'affaires franco-libanais a commencé par nier avoir un quelconque lien avec les contrats Agosta et Sawari 2 au centre de ce dossier. Mais le 20 juin 2013, il déclare avoir négocié le contrat saoudien et remis à 3 reprises des espèces à Thierry Gobert à la demande de Nicolas Bazir. Face au tribunal, sa version n'est plus la même. Ziad Takieddine veut bien reconnaître avoir été un intermédiaire, un médiateur, un facilitateur. Oui, appelez-moi comme vous voulez, Madame la Présidente. Il n'y a pas de problème et je mérite une légion d'honneur pour tout ça. Le prévenu décrit les salons luxueux du roi d'Arabie Saoudite, raconte des bévues de la diplomatie française qu'il aurait été à maintes reprises contraint de rattraper, fort de ses liens personnels avec le pouvoir saoudien. Il mime les personnes qu'il évoque à grand renfort de gestes et de formules, mais refuse d'admettre l'existence d'un réseau. Ce réseau K, c'est une invention, s'exclame Ziad Taqiyedine. Alors on va appeler ça vos petits arrangements, intervient la présidente qui finit par hausser le ton. Monsieur, vous ne dites pas la vérité, vous mentez sans arrêt. La défense se lève, dénonce le manque d'impartialité, le prévenu lui s'offusque. Non, je n'accepte pas, je ne suis pas un menteur, je n'ai jamais menti sauf dans l'esprit d'un juge d'instruction. Mes déclarations, elles sont toutes concordantes avec la vérité.
Des peines de 25 et 30 ans de prison ont été requises hier soir contre les deux principales accusées du procès dit des bonbonnes de gaz après un attentat raté devant Notre-Dame à Paris en 2016. Procès qu'a suivi France Culture devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le verdict, lui, est attendu lundi prochain. Ils sont toujours présents. Ce matin, rue de Rivoli, en plein centre de Paris, les militants écologistes d'Extinction Rébellion occupent ce grand axe de la capitale, tout comme la place du Châtelet et le pont du Change depuis 5 jours maintenant. Hier, des chercheurs leur ont apporté leur soutien, dont François Gémen, spécialiste de la gouvernance de l'environnement, membre du GIEC. Au micro de Véronique Rebérotte, il estime qu'un chercheur a toute sa place aux côtés des militants écologistes.
Quand on travaille sur des enjeux de société comme le climat ou les migrations, on ne peut pas rester dans son labo ou dans son bureau à publier ses articles et puis à se dire qu'il ne faut rien faire. Et le chercheur doit absolument s'impliquer dans ces débats publics. Chaque année, je vois que mes étudiants sont de plus en plus concernés et effectivement, leur niveau de connaissance est très important. Maintenant, il faut aller plus loin sur la question de l'enseignement, des questions climatiques notamment. Il faut pouvoir intégrer cela dans tous les cursus universitaires. On a encore aujourd'hui, en France, mais partout dans le monde, une scission complète entre les sciences naturelles et les sciences sociales, il faut absolument pouvoir casser cette frontière disciplinaire et que tous les jeunes qui sortent diplômés de France, et en particulier nos dirigeants qui vont faire Sciences Po ou l'ENA, aient au moins les bases du fonctionnement de notre planète.
C'était François Gémen, interrogé par Véronique Rebérotte. Le ciel sera gris ce vendredi sur le nord de la France métropolitaine, ensoleillé au sud de la Loire. Comptez 14 degrés ce matin à Lille et à Paris, 15 à Rennes, Strasbourg, 17 degrés à Bordeaux et Lyon, 21 degrés à Marseille,